une grande table du dedans et du dehors aujourd'hui. Intérieur jour avec le nouveau monde de Charlotte Perriand. Jusqu'au 24 février, la Fondation Vuitton consacre une grande exposition à l'architecte et designer française décédée il y a 20 ans. Deux invités pour nous en parler. Le co-commissaire de l'exposition, Jacques Barzac, qui vient de publier le quatrième et dernier tome de l'œuvre complète de la créatrice, et son galeriste François Lafanour, contributeur de Living With Charlotte Perriand. Puis, extérieur jour, à partir de 12h55, avec le sociologue Richard Sennett, auteur de Bâtir et Habiter, qui paraît chez Albin Michel. Quelle éthique pour la ville? Nous en parlerons ensemble dans la deuxième partie de la Grande Table. Bienvenue à tous.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Qui connaît aujourd'hui Charlotte Perriand? S'agit-il de la découvrir, de la faire connaître ou reconnaître? Dans le magnifique livre « Texte plus photo » qu'elle lui consacre chez Gallimard, Laure Adler se demande pourquoi cette vedette des ventes du design, cette femme si solaire, audacieuse, libre et engagée, habitée par l'intensité du présent, pourquoi Charlotte Perriand reste si peu connue du grand public 20 ans après sa mort? L'ombre de Le Corbusier et être une femme dans un monde d'hommes, peut-être, dit Laure Adler, comme l'historienne Michel Perrault qui a préfacé le dernier volume de son œuvre complète.
Il n'y a pas plus viril que l'architecture, représentée par des gens comme Le Corbusier, qui fut son grand maître, qui était un grand, certainement, mais très misogyne. La première fois qu'elle est arrivée chez lui, il lui dit, vous savez, ici, on ne brode pas de coussins. Et toujours, il la renvoyait vers l'intérieur. Elle faisait l'intérieur. Autrement dit, la division sexuelle des sexes et leur hiérarchie, elle était là présente en la personne de Le Corbusier, grand maître de l'architecture. Le nom de Charlotte était toujours gommé. On la mettait avec quelqu'un. Et même on pensait que prouver Perriand, ça serait peut-être mieux. Prouver ferait vendre davantage, etc., etc. Et là, il y a un effacement du nom qui est un effacement de la femme. De la femme créatrice dans un monde viril.
Et bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux, Jacques Barzac et vous François Lafanour. Saluons donc le travail que vous avez mené l'un et l'autre, chacun à votre manière, pour la faire reconnaître, pour reprendre l'expression de Laure Adler, en éditant ses mémoires, une vie de création et ses œuvres complètes, en l'exposant aujourd'hui à la Fondation Jacques Barzac, en la représentant, François Lafanour, dans votre galerie et dans le monde de l'art. Elle était en quête de reconnaissance, Charlotte Perriand, où ses honneurs, finalement, lui importaient peu, Jacques Barzac.
Bon, pour elle, ça n'avait aucune importance. Aucune importance à la fin de sa vie. Moi, je l'ai côtoyé vraiment au quotidien pendant 15 ans. Les honneurs, non. Ce qui l'intéressait, c'est la qualité des personnages. Par exemple, elle était très, très amie de Jack Lang, qui lui a effectivement fait beaucoup d'honneurs. Mais elle l'appréciait non pas parce qu'il était ministre de la Culture, mais c'est le personnage qu'elle appréciait beaucoup. Les honneurs, elle s'en moquait.
Et la question de la reconnaissance.
Et si, alors, pardon,
si.
Excusez-moi, la seule médaille dont elle était très très fière, c'est le poireau. Alors, peu de gens savent ce qu'est le poireau. Il s'agit de la plus haute distinction attribuée par le ministère de l'Agriculture. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre Charlotte Perriand et le ministère de l'Agriculture. Eh bien, elle avait fait, en 1936 et 37, elle avait exprimé le programme du Front Populaire dans le domaine de l'agriculture. Et elle avait fait un travail absolument extraordinaire, notamment de statistiques, et le ministre lui avait offert cette plus haute distinction. Alors là, elle portait son poireau avec grande fierté, parce que ça honorait ses origines paysannes.
Alors, le poireau plutôt que l'équerre, François Lafanour, peu avide de reconnaissance, de médailles à accrocher sur sa veste, peut-être, mais la reconnaissance de ses pairs. Comment elle a vécu cette relation qu'elle a pu avoir avec Le Corbusier, avec Jean Prouvé, avec Pierre Jeanneret? C'était des complices, c'était des maîtres pour certains, pour elle.
Alors je crois que sa relation avec Le Corbusier était un petit peu différente. C'est quand même quelqu'un qui était nettement plus âgé qu'elle quand il l'a embauché, qui avait déjà un travail qui était déjà bien établi, avec une réputation qui était déjà très importante. Donc, je crois que ça, c'était assez différent. Et je crois que ça a toujours été assez tendu. Hein. Elle avait beaucoup d'admiration. Elle avait très envie de travailler avec lui, ce qui paraissait incroyable pour une femme si jeune, à l'époque, d'être choisie par Le Corbusier. Ils s'étaient un peu choisis mutuellement. Enfin, Le Corbusier a accepté de travailler avec elle alors qu'elle avait 25 ans, 26 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et les rapports qu'elle avait avec les autres, comme Jean Prouvé et autres, sont des rapports là où plutôt il y avait une plus grande complicité. Et je pense que ça, c'est un rapport différent. Ils ont travaillé longtemps ensemble. Ils ont eu l'occasion de se fréquenter sur différents projets. Donc je crois que c'était totalement différent dans cette relation.
Mais alors, puisqu'on est là pour essayer d'exprimer et définir sa singularité, comment vous définiriez, Jacques Barzac, la patte Perriand ? Comment elle s'est constituée, dessinée cette patte au fil des années de sa pratique ?
Elle est difficile à définir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Charlotte Perriand a créé pendant plus de 70 ans. Elle a traversé le siècle. Elle est née en 1903, elle est morte en 1999. Elle a commencé vraiment à travailler à partir de 1925-26. Et, si je puis dire, sur son lit de mort, elle corrigeait un prototype. Plus de 70 ans de création, d'une part. Et d'autre part, Charlotte Perriand a, parmi ses caractéristiques, l'une que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle disait toujours « il n'y a pas de formule ». Il n'y a aucune formule. Donc, et elle le pratiquait réellement. C'est une femme qui a beaucoup travaillé avec le métal, puis le bois, puis le bambou, puis les nouvelles technologies, puis il n'y avait aucune formule et rien n'était exclu chez elle. Et lorsqu'on veut dire, ben voilà, Charlotte Perriand, c'est Madame Bois ou Madame Métal ou Madame ce que vous voulez, non, ce n'est pas Madame Bambou. Il y avait des moments, il y avait des circonstances, il y avait des programmes, il y avait des pays dans lesquels elle le travaillait, et il n'y avait pas de formule, donc impossible de la définir.
Mais vous disiez qu'elle répétait qu'il faut avoir l'œil en éventail, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, c'est un mot magnifique qu'elle répétait effectivement souvent, c'est la question de la curiosité. C'est-à-dire que, et c'est vrai que chez elle, elle portait attention de la chose la plus banale à la plus extraordinaire, et elle ne cessait de répondre, de dire à sa fille, il faut que tu aies toujours l'œil en éventail, la curiosité et l'enrichissement.
Un sens du détail aussi, mais pas un goût pour le superflu. Charlotte Perriand, La Commande et Le Gadget, on l'écoute.
Je n'ai jamais fait de création commandée où on me dit tout à coup, brutalement, eh ben vous allez faire un moulin à café, un carter de voiture, une chaise, un pot à lait, etc. Non. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la lignée commerciale et dans le gadget commercial où tout à coup on va créer une chose nouvelle avec une forme aérodynamique, par exemple, parce que c'est à la mode. Ben non, ça m'intéresse alors absolument pas.
Voilà, l'importance du détail sans tomber dans le superflu, l'insignifiant ou l'extraordinaire, c'est cette échelle, ces hiérarchies qu'elle pouvait établir avec son regard et tout ce qu'il y avait, tout ce qu'elle percevait autour d'elle, François Lafanour. Living with Charlotte Perriand, c'est le titre de cet ouvrage édité aux éditions Skira que vous avez dirigé. Vivre avec elle, c'est dire dans un environnement intérieur qu'elle aurait conçu, Quelle promesse ? Comment vous traduiriez cette idée-là ? Vivre avec Charlotte Perriand.
Alors, vivre avec Charlotte Perriand, c'était une façon, c'était un petit clin d'œil, parce que je voulais, en faisant un bouquin sur Charlotte Perriand, je voulais évidemment ne pas me retrouver à essayer de faire quelque chose qui est comparable à ce que avait fait Jacques, qui était déjà une œuvre immense et qui était extrêmement bien documentée. Et donc, je trouvais qu'il fallait essayer de trouver un angle différent. Et l'idée, c'était de montrer qu'aujourd'hui, 50 ans ou 60 ans ou 70 ans après ses premières créations, et ben des collectionneurs, des gens vivent dans le monde entier avec ces meubles d'une façon quotidienne, tout en y mêlant leur goût, leurs tableaux, leurs objets, leurs collections. Et donc je trouvais que c'était une façon de montrer à quel point elle avait su créer quelque chose qui se mêlait parfaitement avec l'art, ce qui n'est pas toujours le cas pour les arts décoratifs. Parfois, on sent que le créateur fait des choses qu'il veut absolument être remarquables et finalement, qui prennent beaucoup de place. Là, on se retrouve dans un univers qui est à la fois extrêmement doux, extrêmement subtil. Effectivement, les détails comptent énormément et c'est ce qui permet à ce mobilier à la fois d'être remarquable et en même temps de s'effacer aussi quand il le faut dans des univers où on peut très bien fréquenter Picasso, Basquiat, Warhol ou d'autres collections d'art africain. Donc c'était ça un petit peu l'idée que j'avais eue.
Sur la question du mobilier, et on ne peut pas la réduire à cela, mais c'est une part importante de son travail. Quelles étaient les lignes directrices, les lignes fortes qui ont aussi conduit sa création? On parle beaucoup pour elle de l'importance des formes, des figures aussi.
Alors je crois qu'il y a une chose, le mobilier, c'est fondamentalement, à mon avis, une des choses les plus importantes qu'elle ait réalisées effectivement dans toute sa carrière, bien qu'elle ait fait beaucoup d'aménagements, mais ce mobilier, il a une particularité, c'est qu'il est, on le voit d'ailleurs dans certaines photos, on voit que Charlotte Perriand dessine ses meubles en essayant de trouver la fonction qu'ils vont avoir et la façon dont on va circuler autour de ces meubles. Donc je crois que le mobilier de Charlotte Perriand a ça de très particulier, c'est qu'il a il tient compte de l'environnement, il tient compte des gens qui vont vivre avec ces meubles, il tient compte aussi de la façon dont on va vivre. Et je crois que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le travail que j'ai pu faire en essayant de retrouver beaucoup de meubles qu'elle avait créés, c'était de montrer que ça suggérait un mode de vie. C'est pas simplement du design, on est dans une véritable mode de vie.
On va l'écouter à ce sujet sur cette manière de penser l'espace, l'agencement de l'espace, penser aussi les meubles à l'intérieur, parce que Charlotte Perriand, elle avait aussi le don de savoir repousser les murs.
Des casiers pour ranger, des sièges pour s'asseoir et des tables pour poser ses mains et des objets. Et c'était ça l'équipement de l'habitation. C'est pas tout le fatras qu'on a pu mettre avec. C'était pas l'armoire normande qu'on ajoute, qui a eu son temps, qui a été belle, qui correspondait à des espaces déterminés. C'est très beau, mais on peut pas vivre avec. On peut pas vivre avec parce qu'on n'a pas l'espace voulu. Seulement, on ne peut pas pleurer qu'on n'ait pas l'espace voulu parce que l'espace, ça se crée. Il y a l'espace nécessaire. Et puis il y a l'espace créé, c'est-à-dire visuellement on peut créer de l'espace sans qu'il y ait beaucoup de mètres carrés pour autant. Par contre, c'est absolument nécessaire de trouver au bout de nos doigts précisément tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que j'appelle la fonction, là. La fonction d'une part et la création d'espace d'autre part.
Voilà, la question de la fonction, Jacques Barzac, comment vous la définiriez-vous? Et je précise que tous ces enregistrements, cette voix de Charlotte Perriand est extraite d'un Avoua Nue qui a été diffusé pour la première fois en 1984. Quel plaisir de l'entendre. Et on entend son tempérament aussi, dans la manière de définir et de raconter sa vision de l'architecture.
C'est une émission faite par Paul Chavas, qui était une amie, qui nous a quittés, qui était merveilleuse. C'était une très très proche de Charlotte Perriand. Pardonnez-moi, ça c'est presque plus
non, merci
privé, de l'ordre privé. C'est deux très grandes dames. La question de la fonction, c'est fondamental, bien sûr, chez Charlotte Perriand. Mais elle va bien au-delà. Et parmi ses capacités tout à fait exceptionnelles, c'est justement de lier la fonction et la poésie. La fonction et une dimension sculpturale. Il y a des tables notamment, et je pense particulièrement à ces tables en forme, aux tables Sipan. Par exemple, lorsqu'on les perçoit, on se dit « Tiens, mais on a l'impression que c'est presque une forme qui pourrait être dessinée par Calder, ou voire par Miro, en se disant « elle est purement sculpturale ». Et en fait, lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on l'analyse, on s'aperçoit que c'est profondément fonctionnaliste. L'épaisseur de ces tables a deux raisons. La première raison, c'est pour éviter l'entretoisement des pieds. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails purement constructifs. Mais la deuxième raison, et qui est plus importante, c'est que ces tables font à peu près 6 cm d'épaisseur. Or, si vous prenez votre main, vous vous apercevez qu'entre le pouce et l'index, vous avez à peu près 6 cm de distance. Et quand vous prenez votre main, quand vous êtes assis sur une table Charlotte Perriand de ce type, vous avez immédiatement envie de caresser la table. Et il y a toujours chez Charlotte cet amour du matériau, quel qu'il soit, de la couleur, de la composition, de la structure, mais qui appelle la caresse. Et les tables de Charlotte particulièrement, elles ont toujours cette particularité. Et comme le disait François Lafanour fort justement tout à l'heure, il y a bien sûr d'autres éléments qui sont constitués par le corps de la femme ou de l'homme qui va utiliser cela. Il y a la question du mouvement que l'on fait autour de ces objets, des tables. Quand elle dessine une table finalement toute petite, par exemple pour la Maison du Mexique, pour les étudiants en 1952, la table est triangulaire pour être adaptée à l'angle de la pièce. Des pièces étaient toutes petites, les chambres d'étudiants, vous imaginez. Mais les angles sont arrondis, non pas tant pour l'esthétique, mais pour que le rapport que cette table n'agresse pas le corps et que vous ne vous cogniez pas aux angles pointus, donc elle les arrondit de façon très 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 proche des mouvements qu'on fait autour et de sorte à ce qu'on soit finalement en empathie avec ces formes-là.
Et qu'on retrouve aussi dans ces fameux petits tabourets à trois pieds, comme exemple.
Oui, c'est très juste. Il y a cette circulation, moi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé au fur et à mesure où je vis avec ce mobilier, qui est effectivement la circulation est très très bien calculée et elle est la circulation et aussi la vision qu'on en a. Ce qui est assez important, c'est que on s'aperçoit qu'effectivement quand on vit avec ces meubles, quand on ne s'y cogne pas, on les touche, effectivement, je vois que beaucoup de gens qui viennent dans ma galerie ont tendance tout de suite à effectivement caresser les meubles. Alors je pense que c'est le bois aussi, parce que le bois est traité d'une telle façon, il est à la fois très brut et très très nature, mais il y a cette circulation et la vision, c'est-à-dire que les meubles sont assez, en général les tables sont assez basses, les bureaux sont assez bas aussi, ça correspondait évidemment à des habitations où les plafonds étaient plus bas, où les perspectives étaient plus longues, étaient plus grandes. Mais aussi, je pense que c'est aussi là encore l'idée de ne pas créer un mobilier qui est là pour impressionner. C'est un mobilier pour vivre avec, c'est un mobilier qui a une vraie fonction, c'est qu'on soit bien avec. Et je pense que c'est important à ce sujet-là de rappeler qu'elle s'est beaucoup inspirée de la nature, qu'elle a recherché en permanence à avoir comment la nature avait pu créer des formes aussi pures, aussi belles, aussi simples, en observant à la fois les bois flotter, les galets sur les plages, le mouvement du vent sur le sable. Tout ça sont des éléments qui lui ont permis ensuite d'essayer de retrouver, presque comme les enfants font un dessin presque parfait et qu'on essaye de garder ce geste, mais je pense qu'elle a voulu retrouver ce geste-là.
Mais il y avait quand même, Jacques Barzac, aussi un dialogue avec les peintres, avec les sculpteurs. Vous disiez tout à l'heure, on dirait du Miro quand on regarde, avant de nous repréciser ce qu'était la fonction pour Charlotte Perriand dans l'exposition dont vous êtes l'un des co-commissaires. Vous faites aussi dialoguer les œuvres de Charlotte Perriand avec celles de Calder, de Miro, de Picasso, de Léger. Il y avait ce dialogue-là.
Évidemment. Charlotte disait toujours l'art est dans tout et l'art doit être partout dans la vie quotidienne. Pour Charlotte Perriand, les arts devaient profondément dialoguer entre eux. Et nous le montrons, c'est-à-dire la peinture avec bien sûr l'architecture, le design, la sculpture, la photographie. Et nous le montrons magistralement dans cette exposition à la Fondation Vuitton sur pratiquement 4000 mètres carrés, où vous voyez comment l'histoire de la modernité, en tout cas incarnée par Charlotte Perriand, est profondément liée à des immenses créateurs comme son grand copain Fernand Léger, Le Corbusier, Picasso, Miro, Calder, etc. Et nous avons de ce point de vue exprimé une chose fondamentale, c'est l'unité d'esprit de la modernité. Et effectivement, par exemple, l'entrée de notre grande exposition magnifique, nous exprimons le, à travers un chef-d'œuvre de Picasso, de Léger, de Corbusier et de Calder, comment on ne peut pas imaginer le mobilier, l'architecture, sans les peintres, sans leur avancée profonde de, des nouvelles formes et d'un nouvel esprit moderne.
Voilà, à l'occasion de l'ouverture donc de cette grande exposition rétrospective, Le Nouveau Monde de Charlotte Perriand à la Fondation Vuitton, nous recevons aujourd'hui le co-commissaire de l'exposition et bien plus Jacques Barzac, et le galeriste de Charlotte Perriand, François Lafanour. Elle était une grimpeuse, elle était une marcheuse, elle était aussi une grande voyageuse. Vous avez évoqué l'étape mexicaine, on va se rendre maintenant au Brésil.
Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caindo, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novo em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, um encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
Extrait de l'album Alvorada de la violoncelliste Ophélie Gaillard, qui sera en première partie du brésilien Toquinho, qu'on entendait le 6 octobre à La Cigale à 19h, où le chanteur guitariste fêtera ses 50 ans de carrière et plus de 90 disques. Le 15 novembre paraîtra aussi Canto de Sereia, nouvel album de Toquinho avec Ophélie Gaillard, la belle collaboration. Continue, voilà pour l'actualité musicale au Brésil. Tout de suite, retour en studio avec mes invités.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert,
Floris,
Jacques Barzac et François Lafanour, pour parler du Brésil de Charlotte Perriand, parce qu'elle y avait construit en 62 un lieu à elle, à Rio. Technologie d'avant-garde et savoir-faire des cultures locales, elle les avait épousées pour penser cette résidence. Quel trait particulier dans Living with Charlotte Perriand. Cynthia Fleury, la philosophe, écrit « Sincèrement, comment ne pas inventer la vie? Comment ne pas avoir du style avec la banquette de Rio en jacaranda, une ligne, un dénivelé qui court le long d'un mur ou au milieu d'une pièce comme les racines d'un arbre, car le tressé rappelle la forme rhizomique. On peut y travailler, on peut dormir, on peut converser, on peut jouir d'un instant pour soi, d'un instant avec un autre, on peut simplement admirer l'objet en tant que tel. »
Oui, c'est une belle définition. J'aime beaucoup ce texte que a écrit Cynthia, parce que je trouve que c'était exactement ce que je voulais sortir dans ce livre, un petit peu de simplement de la vision des arts décoratifs, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, le rapport avec l'art et avec les artistes me semble assez important, et cette idée de rompre ces frontières qu'on veut en permanence mettre entre les arts décoratifs et l'art. Je pense que là, justement, Cynthia Fleury, dans son texte, nous aide beaucoup à franchir ces limites.
L'importance des voyages pour elle, c'est le Brésil, mais c'est d'abord l'Asie, le Japon, Jacques Barzac, avec la découverte toujours de matériaux qu'elle va s'approprier, le bambou pour le Japon, mais aussi une esthétique plus épurée, l'importance du vide. C'était tout ça, les voyages aussi, dans sa création.
C'est l'enrichissement des cultures. Et parmi les caractéristiques de Charlotte, c'est qu'elle a toujours prôné la diversité culturelle. Elle a été profondément, comment dirais-je, opposée au style international. Et dès le début des années 30, elle a eu peur que le style international moderne se développe partout, au détriment justement des spécificités culturelles. Et lorsqu'elle était au Japon, en 1940, elle faisait des conférences auprès des étudiants, des instituts, etc. Elle disait toujours « ne copiez pas, inventez à partir de votre tradition, inventez votre modernité ». Et toute sa vie, que ce soit au Japon, au Brésil, en Indochine, pour l'Afrique aussi, parce qu'elle a fait des réalisations en Afrique, elle prônait cette diversité culturelle, l'enrichissement. Et elle-même, dans la relation entre Charlotte Perriand et le Japon, il y a cette chose magnifique, c'est que le Japon l'a enrichie, mais elle a enrichi le Japon. Et son assistant de l'époque, de 1940, Sori Yanagi, qui après la guerre est devenu le plus grand designer japonais, disait toujours de tous les étrangers qui ont défilé au Japon, c'est certainement Charlotte Perriand qui a eu la plus grande influence.
Voilà, on va essayer de rassembler en quelques mots tout ce qu'on a dit depuis midi. Nous avons oublié ou ignoré de quoi était composée la société, voilà ce qu'elle écrit à Pierre Jeanneret dès 1936 à 33 ans, 2 ans après avoir réalisé l'une de ses œuvres majeures, La Maison au bord de l'eau. Elle traduisait dans ce qu'elle créait ses préoccupations sociales, elle essayait de penser l'espace à partir de l'expérience humaine, et elle avait aussi peut-être cette éthique du vivre ensemble que vous évoquiez tout à l'heure, François Lafanour, cette harmonie avec la nature, avec l'extérieur, qui était très visionnaire déjà à l'époque. Est-ce qu'on retiendra ça peut-être d'elle, une vision très particulière et très tôt de l'architecture qui fait corps avec l'extérieur, pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur?
Oui, absolument. Je crois qu'on peut retenir ça. Et aussi autre chose, c'est que c'est une femme qui a eu une place exceptionnelle au XXe siècle et qui a su trouver sa place, qui a su la créer et qui a apporté quelque chose de totalement original dans un monde plutôt régi par les hommes. Donc c'est aussi ça qui est une chose extrêmement marquante de son travail, et tout ça dans une forme de douceur et dans une forme d'humilité, effectivement, qui est assez remarquable.
Mille merci à tous les deux d'être venus nous parler d'elle. Beaucoup, beaucoup de livres édités à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Je rappelle donc le 4e et dernier tome de l'œuvre complète sous votre gouverne, Jacques Barzac, mais également ce Living with Charlotte Perriand, très large, très vaste, avec des très belles photos. Merci à vous, François Lafanour. Le livre de Laure Adler, Charlotte Perriand, aux éditions Gallimard. Et puis un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 13 octobre de Stéphane Guèze à 17h35, Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre. Enfin, cette exposition incontournable si vous passez par Paris à la Fondation Vuitton, Le Nouveau Monde de Charlotte Perriand et le catalogue qui l'accompagne. Merci.
Merci.